From the Conference Center at Temple... Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur composé de membres des pieux de Tremonton, Garland et Fielding en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence générale, m'a demandé de la diriger. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux, dans différentes parties du monde, où elle est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de famille des pieux de Tremonton, Garland et Fielding en Utah, sous la direction de Jessica Lee Gilbert avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant Notre foyer ici-bas. Ensuite, frère Von Kitsch des 70 fera la prière d'ouverture.
Notre Père qui es aux cieux, nous inclinons la tête devant toi en reconnaissance. Te remercions pour ton Fils, pour son ministère, ses enseignements, pour sa résurrection et son sacrifice. Nous sommes si reconnaissants d'avoir un prophète parmi nous, Père, Frère Monson. Bénis-le aujourd'hui, fortifie-le. Te remercions pour les paroles que nous avons déjà entendues de cette conférence et ceux que nous entendrons. Te prions de nous aider à ouvrir notre cœur pour comprendre et agir en fonction de notre compréhension. Père, bénis spécialement notre service pour les autres qui sont autour de nous davantage, comme ton Fils nous a servi aussi bien. Nous prions pour ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 d'interrégion pour un vote de soutien. Après quoi, Kevin Jorgensen, directeur général du département d'apurement de l'Église, lira le rapport annuel. Il sera suivi de Brooke Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour 2016. Mes chers frères et sœurs, le président Monson m'a demandé de présenter les autorités générales, les 70 interrégions et les présidents généraux des auxiliaires de l'Église à votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Enion Behring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Russell Nelson comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants du dit Collège. Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Nell Andersen, Ronald Rasband, Gary Stevenson et Dale Renland. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Nous saluons avec reconnaissance le service de Bruce Porter, notre ami et associé, qui est décédé le mercredi 28 décembre 2016. Nous exprimons notre amour et nos sincères condoléances à Sœur Porter, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. C'était un homme bon et nous sommes reconnaissants d'avoir servi avec lui. Il nous est proposé de relever Taylor Goodoy et John Pingree, fils, comme 70 interrégions. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur service le manifestent. Il nous est proposé de relever avec toute notre reconnaissance Linda Burton, Carol Stephens et Linda Reeves comme présidente générale de la Société de Secours. Nous relevons également les membres du Bureau général de la Société de Secours. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces sœurs pour leur remarquable service et leur dévouement le fassent. Il nous est proposé de relever Jean Bingham, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, et Bonnie Cordon, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Que ceux qui souhaitent exprimer leur reconnaissance le manifestent en levant la main. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants comme nouveaux 70 autorités générales. Taylor Godoy, Johnny Corr, Adilson de Paula Parella, John Pingree, Brian Taylor et Taniela Wakolo. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il est proposé que nous soutenions Jean Bingham comme présidente générale de la Société de secours avec comme première conseillère Sharon Eubank et comme deuxième conseillère Rena Aburto. Il nous est proposé de soutenir Bonnie Cordon comme première conseillère et Christina Franco comme deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez les manifester. Il nous est proposé de soutenir, comme nouveau 70 d'interrégion,
Louise R. Arbisou, David A. Benalcassar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeglia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor may manifest it.
Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et président général d'auxiliaire actuel. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieu. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons à présent toutes les nouvelles autorités générales et la nouvelle présidente générale de la Société de secours à prendre place sur l'estrade.
President Monson always says it's a long walk.
Président Monson dit toujours que c'est une longue marche. Merci sœur, merci frère. Pour information, sœur Franco est actuellement en mission en Argentine avec son mari et commencera officiellement son service à leur retour en juillet. Comme annoncé, Kevin Jorgensen lira le rapport d'apurement de l'Église. Il sera suivi par Brooke Hales, qui lira le rapport statistique de l'Église pour 2016. Merci.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et indépendants de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2016 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en cas de besoin. Présenté respectueusement, Département d'appurement de l'Église, Kevin R. Jorgensen. La première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2016. Le nombre total de pieux s'est levé à 3266, avec 421 missions, 556 districts et 30 304 paroisses et branches. Le nombre total de membres était de 15 882 417. Le nombre de nouveaux enfants inscrits dans l'Église en 2016 a été de 109 246, avec 240 131 convertis baptisés au cours de l'année. Au 31 décembre, il y avait 70 946 missionnaires à plein temps et 33 695 missionnaires des services de l'Église dans le monde. Six temples ont été consacrés en 2016. Le temple du centre-ville de Provo, de Sapporo au Japon, de Philadelphie en Pennsylvanie, de Fort Collins au Colorado, de Star Valley au Wyoming et celui de Hartford au Connecticut. Deux temples ont été reconsacrés en 2016, le temple de Suva à Fidji et celui de Freiberg en Allemagne. À la fin de l'année, le nombre total de temples en service était de 155.
Thank you, brethren. Merci, frère. Le chœur interprétera maintenant un arrangement de « Je suis enfant de Dieu » et de « How will they know ?» Après ce chant, nous écouterons Robert Hales et Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres.
What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Que signifie devenir un disciple de Jésus-Christ? Un disciple est quelqu'un qui a été baptisé, qui désire prendre sur lui le nom du Sauveur et de le suivre. Un disciple s'efforce de devenir comme lui, en obéissant à ses commandements dans la mortalité. Tout comme un apprenti s'efforce de devenir comme son maître. Beaucoup de gens entendent le mot « disciple » au sens de « suiveur ». Mais le véritable sens renvoie à un état. Cela suggère davantage que d'étudier et de mettre en pratique une liste de qualités individuelles. Les disciples vivent de façon à ce que les qualités du Christ soient tissées dans les fibres mêmes de leur être, comme dans une tapisserie spirituelle. Écoutez l'invitation de l'apôtre Pierre à devenir disciple du Sauveur. Efforcez-vous de joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Comme vous le voyez, le tissage de la tapisserie spirituelle personnelle du disciple requiert plus qu'un seul fil. À l'époque du Sauveur, beaucoup de gens affirmaient être justes dans un ou plusieurs aspects de leur vie. Ils pratiquaient ce que j'appelle l'obéissance sélective. Par exemple, ils obéissaient au commandement de s'abstenir de travailler le jour du sabbat, mais ils formulaient des critiques à l'encontre du Sauveur parce qu'il guérissait en ce saint jour. Ils faisaient des offrandes aux pauvres, mais ne donnaient que de leur superflu, de ce dont ils n'avaient pas besoin pour eux-mêmes. Ils jeûnaient, mais en prenant un air triste. Ils priaient, mais seulement pour être vus des hommes. Jésus a dit, « Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » De tels hommes et femmes peuvent s'efforcer d'obtenir telle ou telle qualité ou d'exceller dans telle action, sans pour autant devenir comme le Seigneur dans leur cœur. De cela, Jésus a déclaré. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous ne devons pas assimiler les qualités du Seigneur à un script que nous devons suivre ou à une liste à cocher. Ce sont des traits de caractère entremêlés qui s'ajoutent les uns aux autres, qui se développent en nous de manière réciproque. En d'autres termes, nous ne pouvons obtenir un seul trait de caractère du Christ sans en obtenir et en entraîner également d'autres. Lorsqu'un trait de caractère s'affirme, il en est de même pour beaucoup d'autres. Dans 2 Pierre et dans Doctrine et Alliance, section 4, nous apprenons que la foi au Seigneur Jésus-Christ est le fondement. Nous mesurons notre foi à ce qu'elle nous amène à faire, à notre obéissance. Si vous avez foi en moi, vous aurez le pouvoir, le Seigneur promet, de faire tout ce qui est utile en moi. La foi est un catalyseur. Sans œuvre, sans vie vertueuse, notre foi n'a pas le pouvoir de faire de nous des disciples. En fait, la foi est morte. Par conséquent, Pierre explique, « Joignez votre foi à la vertu. » La vertu est plus que la pureté sexuelle. C'est la pureté et la sainteté d'esprit et de corps. La vertu est aussi un pouvoir. Si nous vivons fidèlement l'Évangile, nous aurons le pouvoir d'être vertueux dans chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments et de nos actes. Notre esprit deviendra plus réceptif aux inspirations du Saint-Esprit et à la lumière du Christ. Nous représentons le Christ non seulement par nos paroles, mais aussi par ce que nous sommes. Pierre continue. Joignez à votre vertu la science. En menant une vie vertueuse, nous en venons à connaître notre Père Céleste et son Fils d'une manière particulière. Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il connaîtra la doctrine. Cette connaissance est un témoignage personnel, né de l'expérience personnelle. Cette connaissance nous transforme à un tel point que notre lumière s'attache à sa lumière et notre vertu aime sa vertu. Notre vie vertueuse nous permet de passer progressivement de l'état où nous disons « je crois » à celui glorieux où nous disons « je sais ». Pierre nous exhorte à joindre à la science la tempérance, à la tempérance la patience. En disciples tempérants, nous vivons l'Évangile de manière équilibrée et stable. Nous ne courons pas plus vite que nous n'avons de force. Jour après jour, nous allons de l'avant, ne nous laissant pas décourager par les épreuves de la mortalité. En étant ainsi tempérants, nous acquérons la patience et la confiance dans le Seigneur. Nous pouvons nous fier au dessein de Dieu pour notre vie, même si nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels. Ainsi, nous sommes calmes et savons qu'il est Dieu. Lorsque nous affrontons les orages de tribulation, nous demandons « Que veux-tu, Seigneur, que j'apprenne de cette expérience ?» Son plan et ses desseins dans notre cœur, nous allons de l'avant, non seulement en endurant toutes choses, mais en les endurant patiemment et en les supportant bien. Cette patience, enseigne Pierre, nous mène à la piété. Tout comme le Père est patient avec nous, ses enfants, de même nous devenons patients avec les autres et avec nous-mêmes. Nous nous réjouissons du libre arbitre d'autrui et de l'occasion qui nous est ainsi donnée de grandir ligne sur ligne et de devenir de plus en plus brillants jusqu'au jour parfait. De la tempérance à la patience, et de la patience à la piété, notre nature change. Nous gagnons l'amour fraternel qui est la marque de tous les vrais disciples. Comme le bon samaritain, nous traversons la route pour aider quiconque se trouve dans le besoin, même si cette personne n'appartient pas à notre cercle d'amis. Nous bénissons ceux qui nous maudissent. Nous faisons du bien à ceux qui nous maltraitent. Existe-t-il des qualités plus divines ou plus chrétiennes ? Je témoigne que nos efforts pour devenir disciples de notre Sauveur s'ajoutent vraiment les uns aux autres jusqu'à ce que nous soyons possesseurs de son amour. Cet amour est ce qui définit les disciples du Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est la foi, l'espérance et la charité qui nous qualifient pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, ces trois choses demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Frères et sœurs, maintenant plus que jamais, nous ne pouvons pas être un disciple à temps partiel. Nous ne pouvons pas être un disciple dans seulement un point de doctrine ou un autre. Nous avons besoin de cette constellation de qualités qui résulte de la foi en Christ. Entre autres de celles dont nous avons parlé aujourd'hui, pour demeurer fermes en ces derniers jours. Si nous nous efforçons sincèrement d'être de vrais disciples de Jésus-Christ, ces qualités seront entremêlées, jointes l'une à l'autre, et se fortifieront réciproquement en nous. Il n'y aura pas de différence entre la bonté que nous manifestons à nos ennemis et la bonté que nous accordons à nos amis. Quand nous observons ou non, nous serons toujours honnêtes. Que ce soit dans les lieux publics ou dans notre chambre, nous serons dévoués à Dieu. Je témoigne que tout le monde peut être disciple du Sauveur. La condition de disciple n'est pas limitée par l'âge, le genre ou l'origine ethnique. Par notre vie de disciple, nous, saints des derniers jours, constituons une force collective pour apporter des bénédictions à nos frères et sœurs à travers le monde. Le temps est venu de nous réengager en toute diligence à être les disciples du Sauveur. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être ses disciples, notre Sauveur. Que cette conférence soit pour vous l'occasion de commencer comme dans les temps anciens et de venir à lui de tout votre cœur. Cette Église est la sienne. Je témoigne solennellement qu'il vit. Puisse-t-il nous bénir dans notre quête éternelle de devenir des disciples fidèles et vaillants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Certainement, cela devait être un jour tel que nous l'avons aujourd'hui à Salt Lake City. Plus d'un siècle auparavant, il y avait du soleil dans mon âme aujourd'hui. Car Jésus et ma lumière. Tout ce que dit ce merveilleux hymne chrétien, il n'est pas possible de le dire sans sourire. Mais aujourd'hui, je souhaite en extraire un verset de son contexte qui pourrait être utile pour les jours où nous avons du mal à chanter et à sourire et où la paix ne semble pas nous rendre les jours heureux. Si pour un temps, vous ne pouvez pas faire écho aux mélodies joyeuses que vous entendez venant des autres, je vous demande de vous accrocher avec ténacité au vers rassurant de ce cantique. Jésus, qui écoute peut entendre les chants que je ne peux pas chanter. Parmi les réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu, vivant dans un monde déchu, c'est qu'il y a des jours difficiles, des jours où notre foi et notre force d'âme sont éprouvées. Ces difficultés peuvent venir d'un manque chez nous, d'un manque chez les autres, ou simplement d'un manque dans la vie. Mais quelles qu'en soient les raisons, nous découvrons qu'elles peuvent nous déposséder de cantiques que nous voudrions tant chanter et assombrir la promesse que notre cœur chantera le printemps, qu'Elisa Hewitt glorifie dans l'un de ses couplets. Alors, que faire dans ces moments-là? D'une part, suivre le conseil de l'apôtre Paul, espérer ce que nous ne voyons pas et l'attendre avec persévérance. Dans ces moments où la mélodie et la joie faiblissent au point de ne plus pouvoir être perçues, il se peut que nous devions rester silencieux un moment et nous contenter d'écouter les autres, puisant de la force dans la splendeur de la musique qui nous entoure. Nous sommes nombreux en difficulté musicale à avoir repris confiance et à avoir vu notre chant s'améliorer nettement quand nous nous sommes placés à côté d'une voix plus ferme et plus sûre. Forcément, il en résulte que pour chanter les cantiques de l'éternité, nous devrions nous tenir aussi près que possible du Sauveur et Rédempteur du monde qui a l'oreille absolue. Nous puisons alors du courage dans sa capacité d'entendre notre silence et de l'espérance dans son intercession messianique mélodieuse en notre faveur. C'est véritablement lorsque le Seigneur est proche que la colombe de la paix chante dans mon cœur et que les fleurs de la grâce apparaissent. Les jours où nous ne nous sentons pas au diapason,
un peu inférieur à ce que nous voyons ou entendons chez les autres. Je nous demanderai, surtout aux jeunes de l'Église, de nous souvenir que c'est par dessein divin que toutes les voix du cœur de Dieu ne sont pas identiques. C'est la diversité, soprani, alti, ténor et basse, qui enrichit la musique. Pour emprunter une ligne d'une correspondance joyeuse entre deux saintes des derniers jours remarquables, toutes les créatures de Dieu ont une place dans le cœur. Lorsque nous dénigrons notre nature unique ou essayons de nous conformer à des stéréotypes fictifs, stéréotypes suscités par une culture de consommation insatiable et idéalisée par les réseaux sociaux, au point qu'il est impossible de les atteindre, nous perdons la richesse de la sonorité et du timbre que Dieu avait prévu lorsqu'il a créé un monde de diversité. Cela ne veut pas dire que tout le monde, dans ce cœur divin, peut se mettre à crier son oratorio personnel. La diversité n'est pas la cacophonie, et les cœurs exigent de la discipline. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je dirais un état de disciple, mais une fois que nous avons accepté les paroles et les arrangements harmonieux composés avant la création du monde divinement révélé, notre Père Céleste se réjouit d'entendre notre voix, non pas celle de quelqu'un d'autre. Croyez en vous et croyez en lui. Ne dénigrez pas votre valeur et ne décriez pas votre contribution. Surtout, n'abandonnez pas votre rôle dans le cœur. Pourquoi ? Parce que vous êtes unique et irremplaçable. La perte d'une seule voix amoindrit chacun des autres chanteurs de notre grand cœur de la condition mortelle, y compris la perte de celles qui se sentent en marge de la société ou en marge de l'Église. Mais tandis que je vous encourage tous à avoir foi dans les cantiques qui peuvent être difficiles à chanter, je reconnais volontiers que, pour diverses raisons, je peine avec d'autres genres de cantiques qui devraient être chantés, mais ne le sont pas encore. Quand je vois l'inégalité économique sidérante dans le monde, je me sens coupable de chanter avec Elisa Hewitt les bénédictions que Dieu me donne maintenant, les joies amassées là-haut. Ce refrain ne peut pas être pleinement et fidèlement chanté tant que nous n'avons pas honorablement pris soin des pauvres. Le dénuement économique est une malédiction qui se perpétue année après année et génération après génération. Il endommage le corps, mutile l'esprit, nuit aux familles et détruit les rêves. Si nous pouvions faire davantage pour soulager la pauvreté, comme Jésus nous le commande à maintes reprises, peut-être que certains des moins chanceux dans le monde pourraient fredonner quelques notes de « Ce jour, au cœur, j'ai du soleil ». Peut-être pour la première fois de leur vie. J'ai aussi du mal à chanter des paroles ensoleillées et entraînantes lorsque tant de personnes autour de nous souffrent de maladies mentales ou émotionnelles et d'autres problèmes de santé débilitants. Malheureusement, ces fardeaux perdurent parfois en dépit des efforts diligents de toutes sortes d'aidants. Je prie pour que nous ne laissions pas ces enfants de Dieu souffrir en silence et que nous soyons dotés de sa capacité d'entendre les chants qu'ils ne peuvent pas chanter pour l'instant. Et j'espère qu'un jour, un grand cœur mondial s'harmonisera par-delà toutes les barrières raciales et ethniques, affirmant que les armes, les insultes et les propos au vitriol ne sont pas la solution pour régler les conflits humains. Les déclarations des cieux nous crient que la seule manière dont les problèmes sociaux complexes peuvent se résoudre de façon satisfaisante est d'aimer Dieu et de respecter ses commandements, ouvrant ainsi la porte à la seule solution durable et salvatrice qui consiste à nous aimer les uns les autres comme des prochains, le prophète Ether a enseigné que nous devons espérer un monde meilleur. Lisant cette pensée 1000 ans plus tard, Moroni, las des guerres et de la violence, déclare que la voie par excellence vers ce monde sera toujours l'évangile de Jésus-Christ. Combien nous sommes reconnaissants qu'au milieu de ces genres de problèmes, il arrive de temps à autre une autre sorte de cantique que nous sommes dans l'incapacité de chanter. Mais cela pour une autre raison. C'est lorsque ces sentiments sont si profonds et personnels, si sacrés même, qu'ils ne peuvent ou ne doivent pas être exprimés, comme l'amour de Cordélia pour son père, de qui elle a dit « Mon amour est plus riche que ma langue. Je ne puis hisser mon cœur jusqu'à ma bouche. » Nous parvenant comme quelque chose de sacré, ces sentiments sont tout simplement indicibles, spirituellement ineffables, comme la prière que Jésus a faite pour les enfants néphites. Les témoins de cet événement ont rapporté « L'œil n'a encore jamais vu, ni l'oreille entendu, de choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire au Père. Aucune langue ne peut exprimer, ni le cœur des hommes concevoir, des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. » Ces moments divins restent inexprimés parce que les traduire, en admettant que cela soit possible, pourrait ressembler à de la profanation. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde mortel où de nombreux cantiques ne peuvent pas être chantés ou ne le sont pas encore. Mais je supplie chacun de nous de rester définitivement et fidèlement dans le cœur, où nous pourrons savourer à jamais ce cantique le plus précieux de tous, le cantique de l'amour rédempteur. Heureusement, les places pour ce morceau en particulier sont illimitées. Il y a de la place pour les personnes qui parlent des langues différentes, célèbrent des cultures différentes et vivent dans une kyrielle d'endroits. Il y a de la place pour les célibataires, les mariés, les familles nombreuses et celles qui sont sans enfants. Il y a de la place pour les personnes qui se sont posées des questions sur leur religion et pour celles qui s'en posent encore. Il y a de la place pour toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Bref, il y a de la place pour toutes les personnes qui aiment Dieu et respectent ses commandements comme étant la règle de conduite personnelle inviolable, car si l'amour de Dieu est la mélodie de notre cantique commun, forcément, notre quête commune de lui obéir en est l'harmonie indispensable. Avec les impératifs divins de l'amour et de la foi, du repentir et de la compassion, de l'honnêteté et du pardon, il y a de la place dans ce cœur pour tous ceux qui veulent y participer. Venez comme vous êtes, nous dit notre Père aimant. Mais il ajoute, ne comptez pas rester comme vous êtes. Nous sourions et nous rappelons que Dieu est déterminé à faire de nous bien plus que ce que nous pensions pouvoir être. Dans ce grand oratorio qu'est son plan pour notre exaltation, puissions-nous suivre humblement sa baguette et continuer de travailler sur les cantiques que nous ne pouvons pas chanter, jusqu'à ce que nous puissions élever nos accents vers notre roi. Alors, un jour, comme le dit notre beau cantique, nous pourrons chanter et nous écrier à la gloire du Dieu Très-Haut dans les cieux, « Hosanna, Hosanna ! » Car l'homme retrouve l'Éden, Jésus et ses anges tout resplendissants. Je témoigne que cette heure viendra, que Dieu notre Père éternel enverra de nouveau son Fils unique sur la terre. cette fois-ci, pour gouverner et régner en roi des rois à jamais. Je témoigne que cette Église est son Église rétablie et qu'elle est le moyen d'offrir les enseignements et les ordonnances salvatrices de son Évangile à tout le genre humain. Lorsque son message aura pénétré chaque continent et aura établi sous chaque climat et aura été établi sous chaque climat, Jésus, en effet, sourira d'en haut. Et en ce jour, il y aura certainement du soleil dans notre âme pour l'éternité. C'est mon désir profond et ma prière que cette heure promise arrive au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter. Allons avec foi. Le numéro 173 dans le recueil de cantiques français. Après ce chant, nous entendrons Gary Sabine et Valérie Cordon des 70. Ils seront suivis de Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Vous assistez à la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Il y a de cela plusieurs années, notre petite fille est venue vers moi en courant et s'est écriée tout excitée « Grand-père, j'ai marqué les 3 buts du match de foot aujourd'hui ». J'ai répondu avec enthousiasme « C'est super, Sarah ». Sa mère s'est alors tournée vers moi et m'a dit avec un clin d'œil « Le score final était de 2-1 ». Je n'ai pas osé demander qui l'avait emporté. La conférence générale est un moment de réflexion, de révélation et parfois de réorientation. Il existe une entreprise de location de voitures qui a un système de GPS dont le nom est Never Lost, jamais perdu. Si vous prenez la mauvaise direction après avoir indiqué la destination souhaitée, la voix du GPS ne vous dit pas « vous êtes stupide », mais plutôt, et d'une voix agréable, « calcul en cours, faites demi-tour dès que possible ». Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons cette merveilleuse promesse. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Quelle promesse fabuleuse! Mais elle requiert deux éléments en totalité pour que s'accomplisse la promesse d'un troisième en totalité. Revenir de tous les péchés, observer toutes les lois, alors toutes les transgressions seront pardonnées. Cela exige que nous soyons pleinement engagés. Nous ne devons pas être comme cet homme dans le Wall Street Journal à raconter l'histoire, qui envoyait une enveloppe remplie d'argent accompagnée d'une lettre adressée au service des impôts qui disait « Cher service des impôts, veuillez trouver 6 juin l'argent que je vous dois pour mes impôts des années passées. PS, si après cela je n'ai toujours pas la conscience tranquille, je vous enverrai le reste. » Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Nous n'en gardons pas sous le coude pour donner le minimum requis. Le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Notre cœur tout entier. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes complètement immergés, en symbole de notre promesse de suivre complètement le Seigneur, non pas à moitié seulement. Lorsque nous sommes pleinement engagés, les cieux sont ébranlés pour notre bien. Lorsque nous sommes tièdes ou engagés de façon partielle, nous nous privons de certaines des plus belles bénédictions des cieux. Il y a de nombreuses années, j'ai emmené les scouts camper dans le désert. Les garçons dormaient près d'un grand feu de camp qu'ils avaient fait, et comme tout bon chef, je dormais à l'arrière de ma camionnette. Le lendemain matin, en me levant alors que j'observais le camp, j'ai aperçu un scout que je nommerais Paul, qui semblait particulièrement frustré. Je lui ai demandé s'il avait bien dormi et il m'a répondu que non. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu « J'avais froid, le feu de camp s'est éteint ». J'ai répliqué « Eh bien, c'est ce qui se passe avec les feux. Ton sac de couchage n'était pas assez chaud ?» Pas de réponse. Un autre scout a expliqué d'une voix forte « Il ne s'est pas servi de son sac de couchage ». Un peu surpris, j'ai demandé à Paul « Pourquoi ?» Après un long silence, il a finalement répondu « Penaud ». Je me suis dit que si je ne défaisais pas mon sac de couchage, je n'aurais pas le replié. C'est une histoire vraie. Il s'est gelé pendant des heures parce qu'il ne voulait pas faire un petit effort de 5 minutes. On pourrait se dire que c'est stupide. Qui ferait une chose pareille? Eh bien, nous le faisons tous très souvent et de façon bien plus dangereuse encore. Nous refusons nous aussi de défaire notre sac de couchage spirituel lorsque nous ne prenons pas le temps de prier sincèrement, d'étudier, de vivre diligemment l'Évangile au quotidien. Le feu finit par s'éteindre. Nous ne sommes plus protégés et nous commençons à prendre froid spirituellement. Lorsque nous prenons nos alliances à la légère, nous ne pouvons pas en éviter les conséquences. Le Seigneur nous a donné le conseil de prendre garde à nous-mêmes et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. Il a également dit plus loin, « Mon sang ne les purifiera pas s'ils ne m'écoutent pas ». En réalité, il est bien plus facile d'être pleinement engagé que partiellement. Lorsque nous ne le sommes que partiellement ou pas du tout, il y a, comme on l'entend dans le jargon de Star Wars, une perturbation dans la force. Nous ne sommes plus synchronisés ni avec la volonté de Dieu, ni par conséquent avec la nature même du bonheur. Ésaïe a dit, « Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent le vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Heureusement, où que nous nous trouvions aujourd'hui, quelle que soit la situation qui était la nôtre hier, nous restons à la portée du Seigneur qui a dit, « C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voici, c'est pour ceux qui leur ressemblent que j'ai donné ma vie et les reprises. » Tandis que nous nous repentons continuellement et mettons notre confiance dans le Seigneur, nous revenons au point de départ en acquérant l'humilité et la foi d'un petit enfant, enrichi par la sagesse que confère l'expérience de la vie. Job a déclaré, « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Tennyson a écrit, « J'ai la force de 10, parce que j'ai le cœur pur. » Le Seigneur a conseillé, « Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. » Notre fils, Justin, est décédé à l'âge de 19 ans après avoir lutté toute sa vie contre une maladie. Dans un discours de Sainte-Seine qu'il a prononcé peu de temps avant de nous quitter, il a raconté une histoire qu'il avait touchée à propos d'un père et d'un fils qui se rendaient dans un magasin de jouets où il y avait un sac de frappe gonflable en forme d'homme. Le garçon frappait l'homme gonflable qui se renversait et se redressait immédiatement après chaque coup. Le père a demandé alors à son fils pourquoi l'homme se redressait systématiquement. Le garçon a réfléchi une minute puis a dit « J'en sais rien ». ce doit être parce qu'il se tient debout intérieurement. Pour être pleinement engagé, nous devons nous tenir debout intérieurement, quoi qu'il arrive. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous nous attendons avec patience que le Seigneur nous retire les écharpes de notre chair ou nous donne la force de les supporter. Ces écharpes peuvent être une maladie, un handicap, un trouble mental, le décès d'un être cher ou bien d'autres problèmes encore. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous fortifions les mains languissantes. Nous nous tenons debout intérieurement lorsque nous défendons la vérité face à un monde méchant et profane qui s'accommode de moins en moins de la lumière, qui appelle le mal bien et le bien mal et qui condamne les justes à cause de leur justice. En dépit des difficultés, il est possible de se tenir debout intérieurement grâce à une conscience claire, la force et l'assurance réconfortante qui nous viennent du Saint-Esprit et grâce à une perspective éternelle qui surpasse la compréhension des mortels. Dans la vie prémortelle, nous avons poussé des cris de joie à la perspective de l'expérience de la mortalité. Nous étions pleinement engagés en prenant la décision de devenir de vaillants défenseurs du plan de notre Père Céleste. Et il est temps de nous lever et de défendre son plan à nouveau. Mon père, qui avait 90 ans, 97 ans, est récemment décédé. Lorsque quelqu'un lui demandait comment il allait, il répondait systématiquement « Sur une échelle de 1 à 10, je dois être à 25 ». Même quand ce cher homme ne pouvait plus se tenir debout, ni même assis, et qu'il éprouvait de grandes difficultés à parler, sa réponse restait la même. Il se tenait constamment debout intérieurement. Quand mon père avait 90 ans, nous étions ensemble dans un aéroport, et je lui ai demandé si je pouvais aller lui chercher un fauteuil roulant. Il a répondu « Non, Gary, peut-être quand je serai vieux ». Puis il a ajouté « D'ailleurs, si je suis fatigué de marcher, je peux toujours courir ». Si nous ne sommes pas capables d'être pleinement engagés dans notre façon actuelle de marcher, alors il nous faut peut-être nous mettre à courir. Peut-être avons-nous besoin de recalculer notre itinéraire. Il nous faudra peut-être faire demi-tour. Il nous faudra peut-être étudier plus attentivement, prier plus sincèrement ou abandonner certaines choses pour nous concentrer sur celles qui comptent réellement. Nous devrons peut-être renoncer au monde pour pouvoir nous accrocher à l'éternité. Mon père l'avait compris. Lorsqu'il servait dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gens dans le grand et spacieux édifice qui se moquaient de ses principes. Deux de ses camarades de bord, Dale Maddox et Don Davidson, observaient, mais ne se sont pas joints aux moqueries. Ils lui ont demandé « Sabine, pourquoi es-tu différent des autres? Tu as des valeurs morales élevées. Tu ne bois pas, tu ne jures pas. Tu as l'air calme et heureux. » L'impression positive qu'ils avaient de mon père ne cadrait pas avec ce qu'ils avaient entendu dire des Mormons. Mon père put ensuite leur enseigner l'Évangile et les baptiser tous les deux. Les parents de Dale étaient très fâchés et l'ont prévenu que s'il se joignait à l'église, il allait perdre sa petite amie, Marie-Olive. Mais lui a demandé de rencontrer les missionnaires et elle s'est fait aussi baptiser. Une fois la guerre terminée, Hébert G. Grant appela des missionnaires, y compris des hommes mariés. Dale et Marie-Olive décidèrent qu'ils devaient faire une mission, et cela alors même qu'ils attendaient leur premier enfant. Ils eurent en tout 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. Ils firent tous les 9 une mission et Dale et Marie-Olive prirent la relève en faisant eux-mêmes 3 missions ensemble. Des dizaines de petits-enfants ont également fait des missions. Deux de leurs fils, John et Matthew Maddox, ainsi que leur gendre, Ryan, sont actuellement membres du Tabernacle Mormon. La famille Maddox compte maintenant 144 membres et tous sont des exemples de personnes pleinement engagées. En parcourant les dossiers de mon père, nous sommes tombés sur une lettre de Jennifer Richards, l'une de ses 5 filles, de son autre camarade de bord, Don Davidson. Voici ce qu'elle a écrit. « Votre droiture a changé notre vie. Il est difficile d'imaginer ce que serait notre vie sans l'Église. Mon père est mort en aimant l'Évangile et il s'est efforcé de le vivre jusqu'à la fin. Il est difficile de mesurer l'influence bénéfique que peuvent avoir chaque individu en se tenant debout intérieurement. Mon père et ses deux camarades ont refusé d'écouter ceux qui se trouvaient dans le grand et spacieux édifice et qui les pointaient du doigt avec mépris. Ils savaient qu'il vaut bien mieux suivre le Créateur que la foule. L'apôtre Paul aurait pu décrire notre époque lorsqu'il a dit à Timothée « Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Il y a beaucoup de vains discours dans le monde aujourd'hui. Ce sont les conversations des gens qui se trouvent dans les grands et spacieux édifices. Ces discours apparaissent souvent comme des moyens rationnels de justifier la méchanceté ou se font entendre lorsque les gens perdent leur chemin et accélèrent. Ils proviennent parfois des gens qui n'ont pas payé le prix pour être pleinement engagés, qui préfèrent suivre l'homme plutôt que le prophète. Heureusement, nous savons comment les choses se terminent pour les fidèles. Lorsque nous sommes pleinement engagés, nous avons l'assurance certaine que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Neil A. Maxwell a dit « Ne craignez pas, vivez simplement une vie droite. » Mon beau-père enseignait à BYU et aimait beaucoup l'équipe de football américain de BYU, mais il ne pouvait pas regarder ses matchs parce que l'issue de la partie le rendait trop nerveux. Puis s'est produit quelque chose de fantastique, l'invention du magnétoscope. Il pouvait désormais enregistrer les matchs. Si BYU gagnait, il regardait l'enregistrement du match avec une confiance parfaite et une assurance absolument certaine de l'issue. Si l'équipe était injustement pénalisée, s'il y avait un blessé ou si l'équipe était menée dans le dernier carton, il n'était pas nerveux parce qu'il savait qu'il allait remonter son retard. Et on pourrait dire qu'il avait une espérance d'une pureté parfaite. Il en va de même pour nous. Si nous sommes fidèles, nous pouvons avoir la certitude que les choses iront bien pour nous en fin de compte. Les promesses du Seigneur sont sûres. Cela ne veut pas dire que cette université dans la condition mortelle serait facile ou qu'on ne verserait pas de larmes. Mais comme l'a écrit Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, personne n'a encore péché demain. Puissions-nous faire tous les changements nécessaires et regarder vers l'avant avec un grand espoir et une grande foi. Puissions-nous nous tenir debout intérieurement en étant vaillants et pleinement engagés. Puissions-nous être purs et courageux dans la défense du plan de notre Père Céleste et de la mission de son Fils, notre Sauveur. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Après mon appel comme autorité générale, ma famille et moi avons déménagé du Costa Rica à Salt Lake City dans le cadre de ma première affectation. Ici aux États-Unis, j'ai eu la bénédiction de rencontrer des personnes de différentes cultures et origines ethniques. Beaucoup d'entre elles étaient nées dans les pays d'Amérique latine, comme moi. J'ai découvert que beaucoup d'Hispaniques de la première génération parlaient toujours l'espagnol comme première langue et suffisamment d'anglais pour communiquer avec les autres. Ceux de la deuxième génération qui étaient nés aux États-Unis, où ils étaient venus très jeunes et y avaient fait leur scolarité, parlaient un anglais excellent et un espagnol approximatif. Et bien souvent, ceux de la troisième génération avaient perdu l'espagnol, la langue de leurs ancêtres. En linguistique, on appelle cela la perte d'une langue. La perte d'une langue peut se produire lorsqu'une famille s'installe dans un pays étranger où sa langue maternelle n'est pas la langue locale. Cela se produit souvent pour les Hispaniques, mais également pour d'autres populations dans le monde entier dont la langue maternelle est remplacée par la langue locale. Même Néphi, le prophète du livre de Mormon, s'inquiétait de perdre la langue de ses pères lorsqu'il se préparait à partir pour la terre promise. Il a écrit, « Et voici, Dieu juste sage, que nous obtenions ces annales, afin de préserver pour nos enfants la langue de nos pères. » Mais Néphi s'inquiétait aussi de perdre un autre type de langue. Au verset suivant, il poursuit, « Et aussi, afin de préserver pour eux les paroles qui ont été dites par la bouche de tous les saints prophètes, qui leur ont été remises par l'Esprit et le pouvoir de Dieu, depuis le commencement du monde jusqu'au temps présent. » J'ai observé des similitudes entre la préservation d'une langue maternelle et la préservation de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Aujourd'hui, par cette analogie, j'aimerais mettre l'accent non pas sur une langue parlée dans le monde en particulier, mais sur une langue éternelle que nos familles doivent préserver et ne jamais perdre. Je veux parler de la langue de l'Évangile de Jésus-Christ. J'entends par langue de l'Évangile tous les enseignements de nos prophètes, notre obéissance à ces enseignements et le fait de suivre des traditions justes. Je vais aborder trois façons de préserver cette langue. Premièrement, être plus diligent et plus concerné à la maison. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur a invité de nombreux membres éminents de l'Église, parmi lesquels Newell K. Whitney, à mettre leur maison en ordre. Il a dit, « Mon serviteur Newell K. Whitney a également besoin d'être châtié, de mettre en ordre sa famille et de veiller à ce qu'elle soit plus diligente et plus occupée chez elle, et prie toujours, sinon elle sera enlevée de sa place. » L'un des facteurs qui contribue à la perte d'une langue est le fait que les parents ne prennent pas le temps d'enseigner à leurs enfants leur langue maternelle. Il n'est pas suffisant de seulement parler la langue à la maison. Si les parents souhaitent préserver leur langue, ils doivent l'enseigner. Des études ont montré que les parents qui font des efforts conscients pour préserver leur langue maternelle y parviennent. Alors, qu'est-ce qu'un effort conscient pour préserver la langue de l'Évangile ? David A. Bednar, du Collège des Douze Apôtres, a prévenu qu'un enseignement et une mise en pratique insuffisants de l'Évangile au foyer peuvent être une grande cause de rupture du cycle intergénérationnel des familles dans l'Église. Nous pouvons ainsi en déduire qu'un enseignement efficace est extrêmement important pour préserver l'Évangile dans nos foyers et que cela exige des efforts et de la diligence. Nous avons été invités à de nombreuses reprises à acquérir l'habitude de prier et d'étudier les Écritures quotidiennement en famille. Beaucoup de familles qui font ces choses sont bénies au quotidien avec davantage d'unité et une relation plus profonde avec le Seigneur. Quand les familles parviennent-elles à lire les Écritures quotidiennement? Elles y parviennent quand les parents prennent les Écritures en main et avec amour invitent leurs enfants à se rassembler pour étudier ensemble. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire. Pères et mères, ne ratez pas ces grandes bénédictions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Deuxièmement, de bons exemples au foyer. Un expert linguistique a écrit que pour préserver une langue maternelle, il faut que les parents rendent la langue vivante pour leurs enfants. Nous rendons une langue vivante lorsque notre enseignement et notre exemple vont dans le même sens. Lorsque j'étais jeune, je travaillais à l'usine de mon père pendant les vacances. La première question qu'il me posait systématiquement quand je recevais mon salaire était « Que vas-tu faire de ton argent ?» Je connaissais la réponse et répondais « Payer ma dîme et économiser pour mes missions. » Après avoir travaillé avec lui pendant environ 8 ans et lui avoir donné constamment la même réponse, mon père pensait m'avoir enseigné comment payer ma dîme. Ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que ce principe important, je l'avais appris en un week-end seulement. Je vais vous dire comment je l'ai appris. À la suite d'événements en rapport avec une guerre civile en Amérique centrale, l'entreprise de mon père a fait faillite. Alors qu'il avait employé environ 200 personnes à temps plein, il restait après ces événements moins de 5 couturières qui travaillaient à la demande dans le garage de notre maison. Un jour, au cours de cette période difficile, j'ai entendu mes parents discuter pour savoir s'ils devaient payer leur dîme ou acheter à manger pour leurs enfants. Le dimanche, j'ai suivi mon père pour savoir ce qu'il allait faire. Après les réunions de l'église, je l'ai vu prendre une enveloppe et déposer sa dîme à l'intérieur. Mais ce n'était qu'une partie de la leçon. La question qui restait en suspens pour moi était de savoir ce que nous allions manger. Tôt le lundi matin, des personnes ont frappé à notre porte. Lorsque je leur ai ouvert, elles ont demandé à parler à mon père. Je suis allé le chercher lorsqu'il est arrivé. Les visiteurs lui ont parlé d'une commande de couture urgente dont ils avaient besoin le plus vite possible. Ils lui ont dit que la commande était si urgente qu'il la payerait d'avance. Ce jour-là, j'ai compris le principe du paiement de la dîme et les bénédictions qui en découlent. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur parle de donner l'exemple. Il dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Il ne suffit pas de parler à nos enfants de l'importance du mariage au temple, du jeûne et de la sanctification du jour du sabbat. Ils doivent nous voir faire de la place dans notre emploi du temps pour nous rendre au temple le plus souvent possible. Ils doivent voir notre engagement à jeûner régulièrement et à sanctifier pleinement le jour du sabbat. Si nos jeunes ne peuvent ni jeûner pendant 2 repas, ni étudier les Écritures régulièrement, ni éteindre la télévision pendant un grand match le dimanche, auront-ils la discipline spirituelle personnelle nécessaire pour résister aux puissantes tentations de ce monde difficile, entre autres la tentation de la pornographie? Troisièmement, les traditions. Une langue peut également s'altérer ou se perdre lorsque d'autres langues ou traditions viennent se mélanger avec la langue maternelle. Durant les premières années de l'Église rétablie, le Seigneur a invité de nombreux membres éminents à mettre leur foyer en ordre. Il a commencé son invitation en indiquant deux manières par lesquelles nous pouvons perdre la lumière et la vérité dans notre foyer. Et le malin vient enlever aux enfants des hommes la lumière et la vérité par la désobéissance et à cause des traditions de leur père. En tant que famille, nous devons éviter les traditions qui nous empêchent de sanctifier le jour du sabbat, d'étudier les Écritures quotidiennement ou de prier dans notre foyer. Nous devons fermer les portes numériques de notre foyer à la pornographie et à toutes les autres mauvaises influences. Afin de combattre les traditions du monde d'aujourd'hui, nous devons utiliser les Écritures et la voix de nos prophètes modernes pour enseigner à nos enfants leur identité divine, le but de leur vie et la mission divine de Jésus-Christ. Nous trouvons dans les Écritures plusieurs exemples de perte de langue. Par exemple, or, il arriva qu'il y en eut beaucoup de la génération montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin, étant de petits-enfants au moment où il parla au peuple, et ils ne croyaient pas à la tradition de leur père. Et maintenant, à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu, et ils avaient le cœur endurci. Pour la génération montante, l'Évangile était devenu une langue étrangère. Et bien que les bénéfices du maintien d'une langue maternelle soient parfois mis en question, il n'y a pas, dans le cadre du plan de salut, de débat sur les conséquences de la perte de la langue de l'Évangile dans nos foyers. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres imparfaits qui s'efforcent d'apprendre une langue parfaite. Et tout comme une mère a de la compassion pour ses jeunes enfants, de même, notre Père Céleste est patient envers nous, malgré nos imperfections et nos fautes. Il chérit et comprend nos plus faibles suppliques, murmurées avec sincérité, comme si elles étaient de la grande poésie. Il se réjouit d'entendre nos premières paroles dans l'Évangile. Il nous enseigne avec un amour parfait. Aucun accomplissement, aussi important soit-il, n'aura de sens si nous perdons la langue de l'Évangile dans notre famille. Je témoigne que notre Père Céleste nous bénira dans nos efforts pour adopter sa langue qui constitue le plus haut niveau de communication, et ce, jusqu'à ce que nous la parlions couramment, car elle a toujours été notre langue maternelle. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Il y a de nombreuses années, David O. McKay a raconté une belle expérience qu'il a vécue alors qu'il naviguait vers les Samoa. Après s'être endormi, il a eu la vision de quelque chose de sublime. Il dit « J'ai vu au loin une belle ville toute blanche. Il y avait en abondance des arbres aux fruits délicieux et des fleurs parfaitement épanouies. Un grand nombre de gens approchaient de la ville. Chacun portait une robe blanche fluide. Mon attention a tout de suite été attirée par leur dirigeant. Je ne pouvais le voir que de profil, mais j'ai tout de suite reconnu mon Sauveur. Le rayonnement de son visage était glorieux. La paix qui se dégageait de lui était divine. Le président McKay continue. La ville était la sienne. C'était la cité éternelle, et les gens qui le suivaient allaient y habiter dans la paix et le bonheur éternel. Le président McKay s'est demandé, « Qui sont-ils ? Qui sont ces gens ? » Il explique ce qui est arrivé ensuite. Comme s'il lisait mes pensées, le Sauveur a répondu en montrant des mots dans un demi-cercle qui apparut au-dessus de ces gens, écrits en lettres d'or. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont véritablement nés de nouveau. Depuis des décennies, je me souviens de ces paroles. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde. Les bénédictions que le Seigneur a promises à ceux qui vainquent le monde sont à couper le souffle. Ils seront revêtus de vêtements blancs et seront mentionnés dans le livre de vie. Le Seigneur confessera leur nom devant le Père et devant ses anges. Chacun aura part à la première résurrection, recevra la vie éternelle et ne sortira plus de la présence de Dieu. Est-il possible de vaincre le monde et de recevoir ses bénédictions? Oui, absolument. Les personnes qui vainquent le monde acquièrent un amour sans limite pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa naissance divine, sa vie parfaite et son expiation infinie à Gethsémané et au Golgotha ont assuré la résurrection de chacun d'entre nous. Par notre repentir sincère, lui seul est en mesure de nous purifier de nos péchés, nous permettant ainsi de retourner dans la présence de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus a dit : Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ensuite, il a ajouté : Je veux que vous vainquiez le monde. La victoire sur le monde n'est pas un moment déterminant dans une vie, mais une vie de moments qui détermine une éternité. Cela peut commencer enfant, quand on apprend à prier et qu'on chante avec recueillement « Jésus-Christ est mon modèle ». Cela continue lorsqu'on étudie la vie du Sauveur dans le Nouveau Testament et médite sur le pouvoir de son expiation dans le Livre de Mormon. En priant, en se repentant, en suivant le Sauveur et en recevant sa grâce, nous arrivons à mieux comprendre pourquoi nous sommes ici et qui nous devons devenir. Alma le décrit de cette manière. Un grand changement se produit dans leur cœur et ils s'humilient et ils placent leur confiance dans le Dieu vrai et vivant. Et ils sont fidèles jusqu'à la fin. Les personnes qui vainquent le monde savent qu'elles devront rendre des comptes à leur Père céleste. Changer et nous repentir sincèrement ne nous restreint plus, mais nous libère, quand nos péchés cramoisis deviennent blancs comme la neige. Les gens du monde trouvent difficile d'avoir des responsabilités envers Dieu, comme un enfant qui fait la fête chez ses parents en leur absence, se complaisant dans leur affût, refusant de penser aux conséquences lorsque ceux-ci rentreront 24 heures plus tard. Le monde s'intéresse davantage à la satisfaction de l'homme naturel qu'à son assujettissement. La victoire sur le monde n'est pas une invasion générale, mais une bataille intime et personnelle, exigeant un combat rapproché avec nos ennemis intérieurs. Vaincre le monde signifie chérir le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. L'auteur chrétien C.S. Lewis l'a décrit ainsi. Le Christ dit : Donne-moi tout. Je ne veux pas autant de ton temps, ni autant de ton argent, ni autant de ton travail. Je te veux toi. Vaincre le monde, c'est tenir les promesses que nous avons faites à Dieu, nos alliances de baptême et du temple, et notre serment de fidélité à notre conjoint éternel. La victoire sur le monde nous conduit humblement à la table de Sainte-Cène chaque semaine, demandant pardon et promettant de nous souvenir toujours de lui et de garder ses commandements, afin d'avoir toujours son esprit avec nous. Notre amour pour le jour du sabbat ne s'achève pas lorsque les portes de l'Église se referment derrière nous, mais au contraire, il ouvre la porte à une belle journée de repos, d'études, de prière, d'égard envers des membres de la famille et d'autres qui ont besoin de notre attention. Au lieu de pousser un soupir de soulagement lorsque les réunions sont terminées et d'espérer trouver rapidement un poste de télévision pour ne pas rater le début d'un match de football, nos pensées restent tournées vers le Sauveur et son Saint-Jour. Le monde est sans cesse attiré par un déluge de voix séduisantes. Vaincre le monde, c'est faire confiance à la seule voix qui avertit, réconforte, éclaire et apaise, pas comme le monde donne. Vaincre le monde signifie se tourner vers l'extérieur et se souvenir du second commandement. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le bonheur de notre conjoint est plus important que notre propre satisfaction. Aider nos enfants à acquérir un amour pour Dieu et à respecter ses commandements est une priorité absolue. Nous partageons de bon cœur nos bénédictions matérielles par la dîme, les offrandes de jeûne et la générosité envers les nécessiteux. Et comme nos antennes spirituelles pointent en direction des cieux, le Seigneur nous guide vers les personnes que nous pouvons aider. Le monde bâtit son univers autour de lui-même, proclamant avec orgueil « Regardez-moi comparé à mon voisin. Regardez ce qui m'appartient. Voyez combien je suis important. » Le monde est aisément irrité, indifférent, exigeant. Il aime les acclamations de la foule, alors que la victoire sur le monde apporte l'humilité, l'empathie, la patience et la compassion à l'égard des gens qui sont différents de nous. Vaincre le monde voudra toujours dire que certaines de nos croyances feront l'objet de moqueries. Le Sauveur a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Russell M. Nelson a dit ce matin, « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et à être différents des gens du monde. » Un disciple du Christ n'est pas inquiet si ses croyances n'obtiennent pas 1000 « j'aime » ou même quelques émojis amicaux sur les réseaux sociaux. Vaincre le monde, c'est être moins soucieux de nos connexions en ligne que de notre connexion divine avec Dieu. Le Seigneur nous accorde la sécurité quand nous écoutons les conseils de ses prophètes et apôtres actuels. Le président Monson a dit, « Le monde peut être difficile. En allant au temple, nous serons davantage capables de supporter toutes les épreuves et de surmonter toutes les tentations. Nous serons renouvelés et fortifiés. » Avec ces tentations, ces distractions et ces déviations, le monde tente de séduire le fidèle et le persuader de rejeter les magnifiques expériences spirituelles de son passé comme si elles n'étaient que des supercheries insensées. Vaincre le monde, c'est se souvenir des moments où nous avons ressenti l'amour et la lumière du Sauveur, même lorsque nous sommes découragés. Neil A. Maxwell a expliqué l'une de ses expériences de la manière suivante. « J'avais été béni, et je savais que Dieu savait que je savais que j'avais été béni. » Bien que nous puissions nous sentir provisoirement oubliés, nous n'oublions pas. Vaincre le monde ne signifie pas que nous menons une vie cloîtrée, protégée de l'injustice et des difficultés de la condition mortelle. Au contraire, cela ouvre la perspective plus vaste de la foi, nous attirant vers le Sauveur et sa promesse. Bien que la perfection ne soit pas complète dans cette vie, la victoire sur le monde maintient vive la flamme de notre espérance qu'un jour, nous nous tiendrons devant notre Rédempteur, verrons son visage avec plaisir et l'entendrons dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Le 28 décembre de l'année dernière, notre cher ami et autorité générale, Bruce D. Porter, a achevé son séjour dans la condition mortelle Il avait 64 ans. J'ai rencontré Bruce pour la première fois lorsque nous étions étudiants à l'université Brigham Young. Il était l'un des meilleurs et l'un des plus intelligents. Après avoir obtenu son doctorat de l'université d'Harvard, avec une spécialisation dans les affaires russes, ses capacités intellectuelles et ses écrits lui ont apporté une notoriété qui aurait pu le faire dévier de sa route. Mais la richesse et les louanges du monde n'ont jamais obscurci sa vision. Il était loyal envers son sauveur Jésus-Christ, à sa compagne éternelle Suzanne et à ses enfants et petits-enfants. Bruce est né avec une maladie des reins. Il a été opéré, mais au fil du temps, ses reins ont continué de se détériorer. Peu après son appel comme autorité générale en 1995, Bruce et moi avons servi ensemble avec notre famille à Francfort en Allemagne, où il s'est occupé principalement de la Russie et de l'Europe de l'Est. Sa vie a changé de façon impressionnante en 1997, lorsque ses fonctions rénales et sa santé ont commencé à décliner. La famille est retournée à Salt Lake City. Pendant ces 22 années de service parmi les 70, Bruce a été hospitalisé de nombreuses fois et a subi 10 interventions chirurgicales. À deux reprises, les médecins ont dit à Suzanne qu'il ne passerait pas la nuit, mais il a survécu. Bruce a eu recours à la dialyse pour épurer son sang pendant plus de 12 années de son service en tant qu'autorité générale. Une grande partie de ce temps-là, il suivait son traitement en soirée, 4 heures, 5 fois par semaine. Ainsi, il pouvait remplir son appel pendant la journée et accepter d'assumer des responsabilités dans des conférences le week-end. Bruce a été déconcerté lorsque sa santé ne s'est pas améliorée après plusieurs bénédictions de la prêtrise. Mais il savait en qui il avait placé sa confiance. En 2010, il a reçu un rein de son fils David. Cette fois-ci, son corps n'a pas rejeté la greffe. C'était un miracle qui lui a rendu la santé, lui permettant finalement de retourner avec Suzanne dans sa Russie bien-aimée au sein de la présidence de l'interrégion. Le 26 décembre 2016, après un combat contre des infections continuelles dans un hôpital à Salt Lake City, il a demandé aux médecins de sortir de la pièce. Il a dit à Suzanne qu'il savait par l'esprit que les médecins ne pouvaient rien faire pour lui sauver la vie. Il savait que notre Père Céleste le ramènerait à la maison. Il était en paix. Le 28 décembre, Bruce est rentré chez lui dans sa famille. Quelques heures plus tard, entouré de ses êtres chers, il est retourné paisiblement dans son foyer céleste. Il y a des années, Bruce Porter a écrit ceci à ses enfants. Le témoignage que j'ai de la réalité et de l'amour de Jésus-Christ a été la boussole de ma vie. C'est un témoignage pur et brûlant de l'Esprit qu'il vit, qu'il est mon Rédempteur et mon ami dans tous les moments de besoin. Notre défi est de venir à connaître le Sauveur et par la foi en lui, de surmonter les épreuves et vaincre les tentations de ce monde. Soyons fidèles et loyaux. Faisons-lui confiance. Fin de citation. Bruce Douglas Porter a vaincu le monde. Puissions-nous tous faire un peu plus d'efforts pour vaincre le monde. Sans nous excuser de notre responsabilité pour les offenses graves, mais tout en étant patient avec les petites erreurs, accélérant diligemment et aidant généreusement les autres. Je vous promets une plus grande paix dans cette vie et une plus grande confiance en votre destinée éternelle si vous faites plus totalement confiance au Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes très reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h heure d'été, des montagnes rocheuses. La diffusion nationale de l'émission du Mormon Tabernacle Choir aura lieu demain matin, de 9h30 à 10h, heure d'été, des montagnes rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Russell Ballard, du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant la prière d'un enfant. Ensuite, Hugo Montoya, des 70, fera la prière de clôture.
Frères et sœurs, j'ai maintenant la tâche de m'adresser à vous et vous, celle d'écouter. Mon objectif est de finir ma tâche avant que vous n'acheviez la vôtre. Je vais faire de mon mieux. Au fil des ans, j'ai remarqué que les personnes qui accomplissent le plus de choses dans ce monde sont celles qui ont une vision de leur vie avec des objectifs qui les gardent concentrés sur leur vision et des plans tactiques pour les atteindre. Le fait de savoir où vous allez et comment vous comptez y parvenir peut donner un sens, une raison d'être et de la réussite à votre vie. Certains ont du mal à faire la différence entre un objectif et un plan jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'un objectif est une destination ou une fin, alors qu'un plan est l'itinéraire par lequel on y parvient. Par exemple, nous pouvons avoir l'objectif de nous rendre en voiture à un certain endroit que nous connaissons mal, et comme certaines d'entre vous, chères sœurs, le savent, nous, les hommes, nous pensons généralement savoir comment y arriver, ce qui nous amène souvent à dire « Je sais, cela doit être juste la rue d'après. » Ma femme sourit. L'objectif est clair, mais il manquait un bon plan pour atteindre la destination. Se fixer des objectifs, c'est, en substance, commencer avec la fin à l'esprit. Et planifier consiste à échafauder un moyen d'arriver à cette fin. L'une des clés du bonheur repose sur la compréhension de l'importance véritable des destinations et ensuite sur le temps, les efforts et l'attention que nous allons consacrer à ce qui constitue un moyen sûr d'y arriver. Dieu, notre Père Céleste, nous a montré l'exemple parfait en matière d'élaboration d'objectifs et de plans. Son objectif est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Et son moyen d'y parvenir est le plan du salut. Le plan de notre Père Céleste bien-aimé comprend le don d'une vie physique, de progression, d'efforts et d'apprentissage dans la condition mortelle grâce à laquelle nous pouvons devenir plus semblables à lui. Le fait de revêtir notre esprit éternel d'un corps physique, de respecter les enseignements et les commandements de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et de former une famille éternelle nous permet, grâce à l'expiation du Sauveur, d'atteindre l'objectif de Dieu de réaliser l'immortalité, la vie éternelle de ses enfants avec lui dans son royaume céleste. Nous nous fixons des objectifs sages lorsque nous comprenons que nos buts à court terme ne sont efficaces que dans la mesure où ils mènent à des buts à long terme clairement compris. Je crois qu'une clé importante du bonheur consiste à apprendre comment nous fixer des objectifs et élaborer nos plans dans le cadre du plan éternel de notre Père Céleste. Si nous nous concentrons sur ce chemin éternel, nous nous qualifierons immanquablement pour retourner en sa présence. Il est bon d'établir des objectifs et des plans pour notre carrière, pour nos études et même pour notre jeu au golf. Il est également important de nous fixer des objectifs pour notre mariage, notre famille et nos conseils et appels dans l'Église. C'est particulièrement vrai pour les missionnaires. Mais nos objectifs primordiaux devraient être en adéquation avec le plan éternel de notre Père Céleste. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les spécialistes de la fixation d'objectifs nous disent que plus un but est simple et direct, plus il a de pouvoir. Lorsque nous pouvons le résumer à une image claire, ou bien à un ou deux mots symboliques marquants, il peut alors faire partie de nous et guider quasiment toutes nos pensées et tous nos actes. Dans ce contexte, je crois qu'il y a deux mots qui symbolisent les objectifs de Dieu pour nous et nos buts les plus importants pour nous-mêmes. Ces mots sont « retourner » et « recevoir ». Retourner en sa présence et recevoir les bénédictions éternelles qui découlent du respect des alliances contractées sont les objectifs les plus importants que nous puissions nous fixer. Nous retournons et recevons en ayant une foi ferme au Seigneur Jésus-Christ, nous reposant entièrement sur ses mérites, avançant résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes et femmes, nous faisant un festin de la parole du Christ et persévérant jusqu'à la fin. Lucifer n'accepta pas le plan de notre Père qui nous permettait de retourner en sa présence et de recevoir ses bénédictions. En fait, il se rebella et tenta de modifier complètement le plan de notre Père, voulant s'approprier la gloire, l'honneur et le pouvoir de Dieu. Par conséquent, lui et ses sbires furent chassés de la présence de Dieu, et il devint Satan, oui, le diable, le père de tous les mensonges, pour tromper et pour aveugler les hommes et les femmes, et pour les mener captifs à sa volonté. Oui, tous ceux qui ne voudraient pas écouter la voix du Seigneur. En conséquence des choix qu'il a faits dans le monde prémortel, Satan ne peut ni retourner, ni recevoir. Tout ce qui lui reste, c'est de s'opposer au plan du Père en utilisant toutes les séductions et tentations possibles pour nous faire chuter et nous rendre aussi malheureux que lui. Le plan de Satan pour atteindre son objectif diabolique s'applique à toute personne, toute génération, toute culture et toute société. Il utilise des voix fortes, des voix qui cherchent à couvrir le murmure doux et léger du Saint-Esprit, qui peut nous montrer tout ce que nous devons faire pour retourner et recevoir. Ces voix sont celles des personnes qui méprisent la vérité de l'Évangile et qui utilisent l'Internet, les réseaux sociaux, la presse écrite, la radio, la télévision et le cinéma pour présenter de manière attrayante l'immoralité, la violence, la grossièreté, l'obscénité et la dépravation, de façon à nous détourner des objectifs et des plans que nous avons pour l'éternité. Ces voix peuvent également provenir de personnes bien intentionnées, qui sont aveuglés par les philosophies profanes d'hommes et de femmes et qui cherchent à détruire la foi et à détourner de leur objectif éternel celles qui essayent simplement de retourner dans la présence de Dieu et de recevoir tout ce que notre Père a. J'ai découvert que pour rester concentré sur mon but de retourner et recevoir les bénédictions promises, je dois prendre régulièrement le temps de me demander où en suis-je? C'est une sorte d'entretien privé avec soi-même. Et si cela vous semble inhabituel, réfléchissez-y. Qui au monde vous connaît mieux que vous-même? Vous connaissez vos pensées, vos actions secrètes, vos désirs et vos rêves, vos objectifs et vos plans. Et vous savez mieux que quiconque les progrès que vous faites sur le chemin pour retourner et recevoir. Pour me guider lors de mon entretien privé, J'aime lire et méditer les paroles du cinquième chapitre d'Alma qui poussent à l'introspection, où le prophète demande « Êtes-vous né spirituellement de Dieu ? Votre visage est-il empreint de son image ? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur ?» Les questions d'Alma nous rappellent ce que nos objectifs et nos plans devraient inclure pour que nous puissions retourner et recevoir. Souvenez-vous de l'invitation du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En faisant grandir notre foi dans le pouvoir qu'a le Seigneur Jésus-Christ de donner du repos à notre âme, en pardonnant nos péchés, de réparer nos relations imparfaites, de guérir les blessures spirituelles qui étouffent la progression, de nous donner la force et la capacité de cultiver les attributs du Christ, nous aurons une reconnaissance plus profonde pour la portée de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Au cours des semaines à venir, prenez le temps d'examiner les objectifs et les plans de votre vie et assurez-vous qu'ils sont en adéquation avec le grand plan de notre Père Céleste pour notre bonheur. Si vous devez vous repentir et changer, alors envisagez de le faire maintenant. Prenez le temps de réfléchir en vous aidant de la prière aux changements nécessaires pour vous permettre d'avoir l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Nous devons nous assurer que la doctrine et l'évangile de Jésus-Christ est au centre de nos objectifs et de nos plans. Sans lui, aucun objectif éternel n'est possible, et nos plans pour atteindre nos objectifs éternels échoueront immanquablement. Vous trouverez une aide supplémentaire dans le Christ vivant, le témoignage des apôtres, présenté à l'Église le 1er janvier 2000. Affichez-en un exemplaire à un endroit où vous pouvez le voir et prenez le temps d'examiner chaque phrase de ce témoignage inspiré du Christ par ses témoins spéciaux qui l'ont signé. Je vous exhorte à l'étudier en parallèle avec la famille Déclaration au monde. Nous parlons souvent de la déclaration sur la famille, mais lisez-la, s'il vous plaît, à la lumière du pouvoir salvateur du Christ vivant. Sans le Christ vivant, nos aspirations les plus chères ne seront pas exaucées. Comme l'affirme la déclaration sur la famille, le plan divin du bonheur permet aux relations familiales de perdurer au-delà de la mort. Les ordonnances et les alliances sacrées disponibles dans les temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Cela ne peut se produire que parce que le Christ vivant est le Sauveur expiatoire et le Rédempteur du monde. À cet égard, vous pourriez sonder les Écritures afin d'accroître votre compréhension des vérités spécifiques énoncées dans le Christ vivant. Lire le Christ vivant dans un esprit de prière équivaut à lire les témoignages de Matthieu, Marc, Luc, Jean et des prophètes du Livre de Mormon. Cela fera grandir votre foi au Sauveur et vous aidera à rester concentré sur lui tout en suivant vos plans pour atteindre vos objectifs éternels. En dépit de nos fautes, de nos faiblesses, de nos déviations et de nos péchés, l'expiation de Jésus-Christ nous permet de nous repentir et de nous préparer à retourner et recevoir les bénédictions incomparables que Dieu a promises, vivre éternellement avec le Père et le Fils dans le plus haut degré du royaume céleste. Comme vous le savez, nul n'échappe à la mort. Notre objectif et notre plan à long terme devrait donc être de retourner, lorsque le moment sera venu, auprès de notre Père Céleste et de recevoir tout ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Je témoigne qu'il n'existe pas de plus grand objectif dans la condition mortelle que celui de vivre éternellement avec nos parents célestes et notre Sauveur bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas uniquement notre objectif, c'est également le leur. Ils ont un amour parfait pour nous, dont la puissance dépasse notre entendement. Ils sont totalement, complètement et éternellement focalisés sur nous. Nous sommes leur œuvre. Notre gloire est leur gloire. Ils veulent plus que tout que nous rentrions à la maison, que nous retournions et recevions le bonheur éternel en leur présence. Mes chers frères et sœurs, dans une semaine, nous célébrerons le dimanche des rameaux qui commémore l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Dans deux semaines, nous célébrerons le dimanche de Pâques qui commémore le triomphe du Sauveur sur la mort. En concentrant notre attention sur le Sauveur pendant ces deux dimanches spéciaux, souvenons-nous de lui et renouvelons notre engagement à vie de respecter ses commandements. Examinons attentivement notre vie, fixons-nous des objectifs et établissons des plans en adéquation avec ceux de Dieu, de manière à nous amener, en fin de compte, à la magnifique bénédiction de retourner et recevoir. Telle est ma prière. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Cher Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette session de conférence. Nous te remercions pour la musique et ces chants spéciaux. Nous savons que tu es là, tu écoutes nos prières. Nous prions pour Frère Manson. Nous l'aimons. Nous sommes reconnaissants pour le grand service des hommes et femmes qui ont été remerciés aujourd'hui, relevés. Nous te prions de les bénir pour la direction et ceux qui ont été appelés aujourd'hui. Nous te prions pour tes enfants qui souffrent d'affliction en ce moment. Certains d'entre eux qui rencontrent des désastres naturels dont les foyers sont détruits, et certains autres qui vivent dans des tempêtes spirituelles et qui sont tes enfants. Nous sommes tous des frères et sœurs, leurs frères et sœurs. S'il te plaît, permets que notre cœur change afin que nous puissions les aider dans leurs afflictions. Nous t'aimons, Père, et nous aimons ton Fils. Nous voulons être obéissants, comme ton Fils bien-aimé l'est. Et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur composé de membres des pieux de Tremonton, Garland et Fielding en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.